Merci beaucoup et on est ensemble jusqu'à 13h30. L'actualité des idées aujourd'hui, y a-t-il encore un gendarme pour diriger le monde? On en parle avec notre invité Bertrand Badie, professeur à Sciences Po Paris, auteur de L'impuissance de la puissance en 2004, paru chez Fayard, puis 10 ans plus tard, Du temps des humiliés chez Odile Jacob. Cet été a paru L'état du monde annuel des relations internationales, collection qu'il co-dirige avec Dominique Vidal et où les auteurs questionnent la fin du leadership américain pour 2020. Dans l'hégémonie contestée, il poursuit cette réflexion en se penchant à nouveau sur le grand désordre mondial et sur les nouvelles formes de domination internationale. Si l'Amérique de Trump se replie sur elle-même et priorise désormais ses propres intérêts, qui va diriger le monde? La Chine? La Russie? Un ensemble de pays? Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Comment qualifier l'état actuel du monde? Désordre? Grande confusion?
J'ai tendance à dire que lorsqu'on parle de désordre, c'est parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. C'est-à-dire on ne voit pas ces profils nouveaux du système international, de l'espace mondial, ces profils nouveaux qui correspondent à une certaine logique. Alors, faut pas tomber dans l'excès contraire et dire que tout est écrit, que tout est conforme à une loi plus ou moins mystérieuse. Non, je ne dis pas ça. Il y a une part d'aléas, il y a une part d'accidents et qui est loin d'être négligeable. Mais ce que l'on appelle désordre, ce sont des formes nouvelles de conflictualité qui désorientent par rapport à la mémoire que nous avons en Occident de la guerre classique. C'est des formes nouvelles d'interaction. Et on est dans un monde, comme dit l'autre, mondialisé, c'est-à-dire où les interactions sont de plus en plus denses et fortes, où chacun dépend de tous les autres. Et du coup, on voit se profiler des formes d'organisation, de transformation du jeu international qui ne correspondent pas à notre histoire. En gros, si vous voulez qu'on résume, autrefois, une bataille de la Marne réglait les problèmes. Aujourd'hui, que pourrait faire une bataille de la Marne dans l'espace moyen-oriental ou sahélien?
Et confusion, vous retoquez aussi, ou est-ce que vous parvenez, vous, à voir, Bertrand Badie, des grandes lignes fortes, des lignes claires concernant la marche du monde aujourd'hui?
Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, on dit confusion parce que l'on ne retrouve pas
les repères
habituels. Mais soyons encore plus concrets. L'une des marques du monde actuel, c'est l'irruption du social, des sociétés, des acteurs sociaux dans le jeu politique internationale. Regardez le printemps arabe, regardez ce qui se passe en Algérie, regardez ce qui se passe à Hong Kong, regardez ce qui s'est passé tout récemment au Soudan, regardez les formes de conflictualité qui se développent dans le Sahel. Ce ne sont plus État contre État, prince contre prince, ou comme dirait Hobbes, gladiateur contre gladiateur, ce sont des fragments de société qui s'entrechoquent et qui donne l'impression de confusion, parce qu'effectivement, nous, on était habitués à un jeu diplomatique d'État à État et un jeu guerrier d'armée en armée. Quand on voit effectivement manœuvrer des milices, des entrepreneurs de violence, des formes nouvelles d'action sociale internationale, on est désorienté, on parle de confusion. Non, il ne s'agit pas de confusion, il s'agit d'institutions qui autrefois étaient fortes et qui sont aujourd'hui considérablement affaiblies, considérablement délégitimées, et qui laissent passer ainsi des formes d'action sociale qui peuvent aller jusqu'à la très grande violence, et une violence telle que elle peut déboucher sur des conflictualités dont on connaît les contours tragiques. La Syrie, autour de 400 000 morts depuis 8 ans et demi, prenait aussi les conflits au Sahel et ces morts anonymes et hors de toute statistique qui viennent s'accumuler au fil des temps.
Vous montrez, Bertrand Badie, dans cet ouvrage, comment la contestation mondialisée organise aujourd'hui la scène internationale. Mais que contestent exactement les contestataires?
Alors, d'abord, contestataire ferait frémir un diplomate classique, parce que ce n'est pas dans le langage courant des relations internationales. on ne contestait pas dans les relations internationales à l'époque du Concert européen ou même à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, la majorité des États, c'est un critère qui n'est pas forcément décisif, mais enfin on peut le prendre en compte, ont une diplomatie plus contestataire que réellement proactive. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé un événement que l'on a presque que pas vu, tant on était obsédé par la guerre froide qui battait son plein à l'époque. Ce grand événement, ça a été la décolonisation. Et cette décolonisation, on a oublié de remarquer qu'elle avait fortement échoué. Elle avait échoué parce qu'elle n'a pas su se transformer en construction d'institutions politiques et d'États solides, forts et légitimes, d'où ses dérives, soit vers les effondrements d'États, soit vers des régimes ultra-autoritaires. Et puis surtout, parce que cette décolonisation a paradoxalement mis immédiatement de côté, dans les marges, ces nouveaux États que l'on a refusé d'associer à la gouvernance mondiale. Et ça, ça a été la tragédie de la deuxième moitié du XXe siècle. Les vieilles puissances se sont reconstituées en clubs. Ça a été la fameuse diplomatie de club dont le G7 est vraiment l'expression, je dirais, la plus caricaturale. Résultat, ces nouveaux États d'Afrique ou d'Asie qui n'avaient pas voix au chapitre, y compris sur leurs propres affaires, y compris sur leurs propres conflits. Leurs propres conflits étaient gérés par des groupes de contact où ils n'étaient pratiquement pas représentés. Comme l'avait dit une fois le directeur du musée de Gao au Mali, vous savez, chez nous on a un proverbe bambara qui dit « on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence ». Eh ben, la diplomatie post-coloniale rasait la tête des nouveaux États en leur absence. Alors, quand vous êtes rejeté du jeu, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Contester. Et cette histoire de la contestation internationale, elle a commencé à Bandung avec la conférence afro-asiatique, puis ensuite le mouvement des non-alignés, la conférence d'Alger, le groupe des 77.
Alors, on y retourne. En 1961, conférence au sommet des pays non-alignés, c'est à Belgrade.
Belgrade, capitale des pays non-engagés, selon la formule consacrée. Le maréchal Tito a reçu Sokarno, président de la République indonésienne, Modibo Keïta, président du Mali, Hassan II, roi du Maroc, en tout 24 délégations réunies pour affirmer la position du troisième bloc. Étaient présents le colonel Nasser, l'un des leaders de cette conférence au sommet, l'évêque Makarios, directeur de conscience de la République de Chypre, et le président Bourguiba, dont c'était l'apparition dans ce tiers-monde. Si la conférence n'a pas condamné, comme on s'y attendait, la surprise nucléaire venue de Moscou, il n'en est pas moins vrai que le geste de l'URSS a suscité dans son ensemble les regrets de la conférence des neutralistes.
Le tiers-monde à Belgrade, 1961, on ne parle peut-être pas encore des contestataires, Bertrand Badi, mais les non-alignés contestent bien l'hégémonie.
Ils contestent deux choses. Ils contestent d'abord la dualité Est-Ouest en disant « mais nous, on n'a rien à voir avec tout cela ». Vous savez, la fameuse phrase de Nasser quand Foster Dulles fait pression sur lui pour que l'Égypte rejoigne le pacte de Bagdad, ce pacte pro-occidental, comme on disait à l'époque, qui se constituait au Moyen-Orient, Nasser dit « mais l'URSS, c'est à 7000 kilomètres de chez moi, c'est pas un problème, on voit pas le sujet ». Et effectivement, rejet de se plier à un système international mis en place en 45-47, qui opposait l'Est et l'Ouest, dans lequel le Sud n'avait qu'un rôle de figurant. Et puis, vous avez raison, au-delà de cette contestation jeu qui était imposé à l'invention duquel ces nouveaux États n'avaient pas participé, il y avait la contestation de l'hégémonie, en disant, mais finalement, c'est pas parce que on est sorti d'un siècle, voire un siècle et demi de colonisation, que l'on va maintenant faire allégeance à ces co-hégémones. Ça, c'est curieux comme formule, co-hégémones, que représentaient à l'époque l'URSS et les États-Unis. Alors, il y a eu un jeu très subtil que j'étudie dans mon livre, parce que je trouve ça passionnant, qui était en même temps un jeu de clientélisation, c'est-à-dire bah, il fallait bien survivre, donc avoir des aides économiques, voire des protections militaires, donc on s'affidait à l'URSS ou aux États-Unis, et en même temps on s'affirmait contre. Vous savez qui est le grand homme qui a le premier compris tout ça, avant même que ça n'existe, c'est Étienne de la Boétie. Il faut relire ce magnifique essai sur la servitude volontaire, où il nous montre qu'il n'y a pas de servitude volontaire. Simplement, quand il faut survivre, on accepte des petites soumissions en échange de ce qu'il appelait dans le français de l'époque des drogueries, c'est-à-dire quelques petits avantages ou quelques petits anesthésiants pour faire passer une hégémonie qui, dans l'histoire, et c'est la thèse de mon livre, n'a jamais pu s'accomplir, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain.
Pour toutes ces raisons, parce que la servitude volontaire ne marche pas ou est remise en cause, parce que la question militaire qui opérait auparavant ne fonctionne plus aujourd'hui, mais il y a quand même aussi un autre facteur, c'est qu'il semblerait que celui qui était la puissance hégémonique d'hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors pourquoi ? L'Amérique n'est plus le gendarme du monde, parce qu'elle ne peut plus l'être ou parce qu'elle ne veut plus l'être, Bertrand Badi ?
Probablement les deux, mais ça part en fait de très loin. Ça part du fait qu'on n'a pas été attentif pendant la guerre froide. Je suis de la génération de la guerre froide, donc je me souviens très bien de ce sentiment de l'époque, que l'on entrait dans une période tout à fait exceptionnelle. Tout à fait exceptionnelle, au cours de laquelle on pensait que pour la première fois, l'hégémonie allait pouvoir réellement s'accomplir. C'est-à-dire, l'Amérique, dans les années 50 et dans les années 60, avait tous les traits de l'hégémone. C'est-à-dire, il était conducteur, il était protecteur et il était source d'imitation. Ça, c'est les trois composantes pour définir ce qu'est un hégémone. Il faut non seulement diriger, mais il faut créer un ordre, celui que l'on veut, et obtenir une adhésion volontaire. L'hégémone ne s'impose pas par la force. Or, si vous regardez la chronique des années 50 et 60, vous retrouvez tout ça. C'est-à-dire, en même temps, ce qu'on appelait le parapluie américain, protection de l'Europe occidentale face à l'URSS, un ordre international qui se dessinait et qui avait la griffe des États-Unis, et puis cette espèce d'engouement pour tout ce qui était américain, je dirais du jazz à Coca-Cola en passant par le cinéma américain, on croyait que ça y était. C'est-à-dire que cette hégémonie annoncée par Thucydide 500 ans avant Jésus-Christ allait enfin s'accomplir. C'était en fait plus compliqué que ça, parce que d'abord, elle ne s'accomplissait pas, puisqu'il y avait un autre en face, qui était un co-hégémone, l'URSS. Et c'était par ce co-hégémone que les États-Unis tenaient en quelque sorte le sceptre de leur hégémonie. Du coup, lorsque le mur est tombé, voilà le premier facteur, 1989, 30e anniversaire cette année, très bientôt, les États-Unis n'avaient plus de fonction. N'avait plus cette fonction de protection, n'avait plus cette fonction de coalescence autour d'une idéologie qui était homogène et forte, qui était, disons, en gros, l'idéologie libérale. Et comme il n'y avait pas de co-hégémone en face, eh ben, en fait, il n'y avait plus d'hégémone du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la menace soviétique disparaissait, on a vu ce camp occidental se défaire, l'hégémonie se défaire. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est la mondialisation. Et alors, vous savez, la mondialisation, c'est un mot qui est dans toutes les bouches. Personne ne sait convenablement le définir, c'est compliqué, on ne va pas entrer dans ces débats. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'au centre de la mondialisation, vous avez deux choses. Vous avez l'inclusion, c'est-à-dire tous les pays du monde se trouvent dans le même système international, ce qui rend l'hégémonie beaucoup plus difficile. Parce que vous pouvez être hégémone dans un espace culturel homogène comme l'Europe, c'est beaucoup plus difficile de l'être lorsque vous avez un monde composé de cultures et d'histoires extraordinairement différentes, de la Chine au Botswana et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à la Mauritanie. Et puis surtout, la mondialisation, c'est l'interdépendance. Ça veut dire quoi, l'interdépendance ? Ça veut dire que tout le monde dépend de tout le monde. Donc le faible continue à dépendre du fort, mais désormais, le fort dépend du faible. Et ça, c'est quelque chose qui va rendre le géant vulnérable. C'est-à-dire, les États-Unis dépendent de plus en plus de l'extérieur. Alors, pour des raisons que l'on connaît bien, par exemple la dépendance énergétique, la dépendance en matières premières, la dépendance du commerce international, ça, c'est des choses bien connues. Mais il y a des choses plus surprenantes, à savoir, par exemple, que l'actualité conflictuelle dans notre monde, aujourd'hui, elle ne se fait plus au nord, elle se fait au sud. C'est-à-dire que l'agenda international, il est tenu par les acteurs du sud. Le champ de bataille du monde, c'est plus l'Europe. C'est plus l'espace, je dirais, naturel des États-Unis, leur espace culturel, historique, ancestral. C'est le Sahel, c'est le Moyen-Orient. Et là, vous avez des acteurs qui sont en situation d'autonomie très forte par rapport à ce modèle américain, qui ne sont pas sensibles aux décisions prises à la Maison Blanche. Et du coup, qui fabrique aujourd'hui l'agenda international ? Qui l'a fabriqué au début du XXIe siècle ? Qui a été le plus proactif, Monsieur Ben Laden ou Monsieur Bush? Qui a décidé des événements, des grands événements qui ont ponctué les deux premières décennies du XXIe siècle? Monsieur Ben Laden.
Sauf qu'une partie des arbitres sont encore au nord, ou pensent l'être en tout cas, même si les terrains d'opération, l'agenda
c'est des arbitres, mais ils ont été virés du terrain. Ouais. Que vaut un arbitre viré du terrain? Regardez ce qui se passe en Syrie licencié. Aujourd'hui.
Justement, Donald Trump a franchi pour vous une étape supplémentaire dans le retrait des États-Unis de cette scène internationale. Mais le pas le plus décisif qui a été réalisé, c'était plutôt par l'administration Obama, dont vous aviez à l'époque déjà qualifié la diplomatie d'hégémonie passive. Alors, conservatisme, libéralisme, nationalisme, on a l'impression que de Bush à Trump, à vous lire Bertrand Badi, toutes les politiques étrangères américaines ont échoué à leur manière. Cette hégémonie s'est effritée bien avant l'arrivée même de Donald Trump à la Maison Blanche et son America First.
Disons, le pic d'hégémonie, ça a été l'administration George W. Bush et les néoconservateurs. Parce que là, l'idéologie néoconservatrice, c'est l'accomplissement absolu, total, du projet hégémonique, qui consiste à dire, saisissons la mondialisation comme aubaine pour universaliser nos valeurs et nos structures, finalement, d'autorité. Ça a échoué. Et l'échec le plus remarquable, ça a été l'Irak. En coût humain, en coût économique, jusqu'à 1000 milliards de dollars, dit-on. Donc, à partir de là, l'électorat américain a rejeté cette formule. Et l'élection d'Obama en novembre 2008, ça a été une réaction contre les excès, les impasses, les échecs, les coups du néo-conservatisme. Alors, Obama, je pense, a été un très très grand président parce que ça a été un président très lucide. Considérant que le leadership militaire des États-Unis appartenait au passé, que peut-être on pouvait se rattraper à travers un modèle néolibéral, c'est-à-dire en essayant de redéployer sa domination, son autorité sur le système économique international, d'où les grands traités, le TTIP, le Transpacifique, etc., l'idée de relancer le grand idéal libéral. Ça a provoqué, et c'est très intéressant, une réaction au sein de l'électorat américain, et notamment ce que l'on appelle aux États-Unis le petit blanc américain, qui a eu conscience que cette mondialisation dont Obama faisait l'éloge, en quelque sorte, avait agi contre ses intérêts. C'est vrai que la classe moyenne blanche américaine a perdu avec la mondialisation. Ses revenus se sont effrités et en même temps s'est sentie menacée sur le plan ethnique par l'arrivée de nouvelles minorités. Et tout ceci a provoqué non pas la défaite d'Obama, puisqu'il ne se représentait pas au terme de son deuxième mandat, mais en tous les cas, celle de Madame Clinton, qui ne parvenait pas à se dissocier de ce modèle, et l'avènement d'une formule néo-nationaliste dont Trump est la parfaite incarnation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce néo-nationalisme n'est pas la rupture totale avec Obama. C'est-à-dire que Trump, qui déteste son prédécesseur, a au moins en commun avec lui de considérer que les interventions militaires tous azimuts, ce n'est pas bon. Alors, Obama disait c'est pas bon parce que ça sert à rien, c'est contre-productif même. Trump dit quelque chose d'un peu différent, il dit ça nous coûte cher et ça porte atteinte aux intérêts des États-Unis. Voilà la différence, mais en tout cas on est dans une nouvelle séquence historique qui est post-hégémonique, incontestablement.
Bertrand Badi est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de son nouvel essai géopolitique « L'hégémonie contestée », c'est chez Odile Jacob.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
À quoi va ressembler demain ce monde post-hégémonique? Cet avènement de ce nouveau monde est-il une bonne chose? Vous posez vous-même la question, Bertrand Badi, dans ce livre, Nouvelles vertus ou nouvelles illusions? Où en est-on pour l'instant, aujourd'hui, avec ce America First proclamé par Donald Trump? On voit que ce sont les États-Unis avant tout, et peut-être même à n'importe quel prix, parce que Donald Trump ne veut pas non plus, visiblement, d'un monde multipolaire, ni valider le principe des interdépendances. Ce qu'il a répété récemment, c'est notre our business. C'est une sorte de reformulation version 2019 de « on voit pas le sujet » comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec Nasser, qui ne se sentait pas engagé dans le conflit Est-Ouest, dans la guerre froide telle que cela menait les États-Unis avec les Russes. « Not our business », c'est très étonnant d'entendre ça de la part d'un président américain. Il l'a répété en justifiant son choix de se retirer du nord de la Syrie.
« We've been Nous avons passé beaucoup de temps avec les Kurdes à surveiller des prisonniers. Certains sont particulièrement dangereux. Un bon nombre d'entre eux viennent d'Europe et devraient retourner en Allemagne ou en France. J'ai parlé à Boris Johnson. Quelques-uns sont du Royaume-Uni, mais globalement, ils sont issus de différents pays européens. Ils ne viennent pas de notre pays, et on leur a fait une grande faveur. On a dit à la France, à l'Allemagne, « Nous aimerions que vous récupériez vos prisonniers. » Mais ils ont dit « On n'en veut pas. » Mais on n'en veut pas non plus. Personne n'en veut. Mais ils sont dangereux et quelqu'un doit bien les surveiller. Je leur ai dit « Écoutez, on vous fait une grande faveur. Maintenant, récupérez vos citoyens. Ce sont des Allemands et des Français. » Mais ils n'ont pas voulu s'en occuper. Je leur ai donné une chance, puis deux, puis trois chances, et même une quatrième. Mais ils ont refusé. Je ne leur en veux pas. Ils ont l'habitude de faire ça avec les États-Unis. Ils profitent de nous, qu'il s'agisse du commerce ou de l'OTAN. Ils profitent des États-Unis.
Voilà, on profiterait tous des États-Unis, pour l'instant en tout cas. Il y en a un qui estime que tout ceci ne le regarde plus et qui fait assez peu de cas des Européens.
Oui, alors d'abord il y a quelque chose de suffocant, de profondément étonnant, c'est ces États-Unis qui ont porté la mondialisation, qui ont porté cette nouvelle grammaire du monde, au-delà du référent nationaliste traditionnel, et qui deviennent, alors pour reprendre la formule de tout à l'heure, les premiers contestataires de la mondialisation. Vous vous rendez compte, la superpuissance, le premier 40%, un petit peu moins maintenant, des dépenses militaires du monde, qui est non plus le leader, non plus l'hégémone, comme je le décris dans mon livre, mais le contestataire de l'ordre international. Et quand tout à l'heure on parlait de la naissance de cette contestation internationale qui n'existait pas du temps des États-nations westphaliens européens, on voyait sa naissance, son aube, avec le mouvement des non-alignés, deuxième aube, c'est avec, effectivement, les États-Unis.
Mais c'est-à-dire que toutes les alliances, Bertrand Badi, d'hier sont caduques. Vous évoquiez l'hégémonie telle que l'avait conceptualisée Thucydide à l'époque, autour d'Athènes, les cités grecques, les Grecs contre les Perses, cette hégémonie qui ne serait plus pertinente aujourd'hui, elle a quand même été réactivée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas l'espoir d'une hégémonie, dans la confiance que les Européens ont notamment livrée ou donner aux États-Unis pour diriger l'Alliance. Washington, la nouvelle Athènes, ça c'est bel et bien terminé.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, si on relit Thucydide, on s'aperçoit que l'homme était extraordinairement lucide parce que il décrit l'évolution même d'Athènes, plébiscitée par les autres cités qui considéraient que seule Athènes était capable de les protéger. La similitude est frappante, n'est-ce pas ? Mais, nous explique Thucydide, peu à peu, Athènes est obligée de recourir de plus en plus à la coercition pour obliger ses voisins à suivre son ordre parce que l'adhésion volontaire s'effrite. Cette adhésion volontaire, elle était à son paroxysme à la fin des années 40 pour deux raisons. La première, il faut se remettre dans l'ambiance de la fin des années 40. L'Europe sortait d'une guerre qui avait fait 60 millions de morts. Les États-Unis, l'URSS aussi, mais on pensait surtout aux États-Unis à l'époque. Les États-Unis avaient montré que leur puissance était efficace, premièrement, et deuxièmement, bonne au sens moral du terme, puisqu'elle avait terrassé le monstre nazi. Donc nous étions à une époque où la panique que les souvenirs récents entraînaient se combinait à la confiance en ce nouvel hégémon, et donc on était dans la situation athénienne décrite au début par Thucydide. Maintenant, tout ça est terminé, et quand vous évoquez le mot alliance, je voudrais qu'on s'y arrête quelques secondes, parce que c'est l'idée même d'alliance qui disparaît. Une alliance, c'est quoi ? C'est un ensemble stable, solidaire, uni autour de projets et de valeurs partagées. Et Thucydide, toujours le même, nous dit, c'est différent de la symmachie, ce qu'il appelle la symmachie. La symmachie, c'est une alliance d'opportunités. Bon. Aujourd'hui, regardez comment fonctionne le monde, ces alliances profondes que l'OTAN devait symboliser disparaissent. Je vous rappelle que par exemple, la Turquie est membre de l'OTAN, donc on voit ce qui reste de la vieille idée d'alliance, mais on voit se constituer partout des coalitions d'opportunités. Regardez le mouvement kurde, l'YPG dans son désarroi et dans son effroi actuel, qui tout d'un coup s'allie à Damas, qui était l'ennemi naturel d'hier. C'est-à-dire que cette nouvelle configuration du monde n'est plus compatible avec l'idée d'alliance au sens strict du terme, et donc avec l'idée d'hégémonie, ce sont les alliances d'opportunités, ce que d'ailleurs M. Poutine a très bien compris. L'intelligence diplomatique de Poutine, c'est d'avoir fabriqué des alliances de circonstances avec la Turquie et l'Iran, c'est-à-dire les deux puissances régionales du Moyen-Orient, là où les Occidentaux persistaient à considérer qu'il leur suffisait de décider ce qui était bon pour le Moyen-Orient et de se dispenser de relais locaux. Moyennant quoi, les Occidentaux n'ont plus d'alliés au Moyen-Orient et n'ont même plus un orteil sur le sol syrien.
Est-ce que tout ceci pousse à l'inaction ou à la non-résolution des conflits? Ou est-ce qu'à travers ces alliances de circonstances, un nouvel ordre est quand même en train de s'établir? Je vous ramène encore une fois sur le cas et le territoire syrien. On a tendance à voir que depuis 10 ans en Syrie, rien ne se passe, alors que la situation continue et l'histoire continue de s'écrire là-bas, avec une acuité d'ailleurs particulière aujourd'hui. Je vous propose d'écouter les mots, puisque vous parliez de la Turquie, du président Erdogan, justifiant son offensive turque et en Syrie et mettant en garde l'Europe. En cas de sanctions, il ouvre ses frontières.
Nous avons lancé l'opération Printemps de paix qui sera un succès avec l'aide de Dieu et l'héroïsme de nos forces de sécurité. Le but de l'opération Printemps de paix est de contribuer à l'intégrité territoriale et à l'unité politique de la Syrie. L'Union européenne, si vous essayez de qualifier notre opération d'invasion, alors c'est simple. Nous ouvrirons nos frontières et vous enverrons 3,6 millions de réfugiés.
Bertrand Badi, de quoi ce chantage aux réfugiés est-il révélateur?
Il est révélateur d'abord d'une revanche. Vous avez eu l'amitié de présenter mon ancien livre « Le temps des humiliés », où j'avais essayé d'expliquer à quel point l'humiliation est un paramètre fondamental des relations internationales, et ce cri, je dirais même dans sa physique, telle qu'on l'a entendu il y a un instant, c'est un cri de vengeance par rapport au fait que l'Europe a toujours regardé de manière condescendante le monde turc, et avant le monde turc, le monde ottoman. Et je ne pense pas que sérieusement Monsieur Erdogan ait à l'idée d'ouvrir ses portes. D'ailleurs, c'est presque techniquement impossible. En revanche, il sait se rappeler au bon souvenir de l'Europe qui n'a pas hésité à donner le bifton, si vous me permettez l'expression, à la Turquie pour qu'elle garde ses populations réfugiées, qu'elle n'entre pas en Europe. Ce qui est une façon de critiquer une façon de faire et justement de remettre en cause les vieux schémas hégémoniques. Ça, c'est typique de l'hégémonie, n'est-ce pas ? On donne aux coursiers le pourboire qui lui permet de tenir à l'écart ceux que l'on ne veut pas voir entrer chez soi. C'est pas très glorieux. Et Erdogan a un malin plaisir de le rappeler. Mais vous savez, pour répondre à votre question, il faut voir que aujourd'hui, les guerres ne se gagnent plus. Vous avez en tête une guerre qui a été clairement gagnée par un camp. Elle ne se gagne plus. Et on est face à ces nouveaux conflits, un peu comme les médecins face à ces maladies orphelines qu'on ne sait pas soigner. C'est-à-dire, les nouveaux conflits, on ne sait pas les traiter, on ne sait pas les amener à la solution. Et c'est la raison pour laquelle ils durent, ils s'enlisent, ils se transforment, ils renaissent de leurs cendres. Et c'est probablement ce décalage par rapport à la réalité conflictuelle d'aujourd'hui et les vieux modèles hégémoniques anciens où finalement le plus fort jouait ce que vous appeliez tout à l'heure le rôle d'arbitre. Bon, ben maintenant on moque l'arbitre, on le vire du terrain et il n'y a plus effectivement de processus de résolution des conflits.
Alors exit probablement, ou en tout cas pour le moment, les États-Unis pour ce qui est d'être le gendarme du monde, mais cette tentation, voire cette prétention hégémonique, est-ce qu'elle n'en anime pas d'autres, la Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine?
Alors c'est ce qu'on dit. Alors pour la Chine, on le dit même de manière obsessionnelle. Graham Allison, grand politiste américain, a même fait un livre pour expliquer qu'on est dans un cycle où l'hégémonie chinoise est ascendante et va remplacer ou risque de remplacer l'hégémonie américaine. Moi, je crois que c'est plus compliqué que ça pour une raison très simple. C'est que nous entrons dans un monde où les protagonistes n'appartiennent pas à la même histoire. Et la Chine n'a pas de la domination, la même représentation et la même culture, je dirais presque le même langage que les vieilles puissances occidentales. Il y a chez les dirigeants chinois, et depuis Chou Enlai, une critique très forte du modèle hégémonique occidental dont ils ont eu à souffrir, et qui par ailleurs, sous leurs yeux, n'a jamais abouti. Regardez la défaite aux portes de la Chine, des États-Unis, au Vietnam. Donc la Chine est portée par un vent de domination, c'est absolument évident, qu'elle associe à sa survie, mais cette domination, qui est clairement économique, qui prend des formes nouvelles, ne se marie pas nécessairement avec une domination politique et militaire. Parce que la Chine n'est pas messianique. La Chine n'a pas envie de siniser le monde. C'est ça la grande différence. Là où les États-Unis, avant les États-Unis, les puissances occidentales avaient envie, en quelque sorte, de refaire le monde à leur image. La Chine ne veut pas refaire le monde à son image. Donc, ça sera une domination qui pourra être très dur, hein, je ne vois pas de douceur dans cette différence, mais qui, en tous les cas, ne suivra pas les mêmes chemins, et en tous les cas, ne se traduira pas par cette forme d'hégémonie thucydidienne. Vous savez, parler de Thucydide à un Chinois, vous ne l'intéresserez pas beaucoup.
Vous montrez aussi, et vous faites dans cet essai Bertrand Badi, une typologie des nationalismes existants aujourd'hui. Dans ce monde sans centre, c'est-à-dire dans un monde animé par des rivalités, des intérêts, des égoïsmes aussi, comment ça peut se passer à l'avenir? Quel est votre scénario dans ce monde où tous nos repères habituels sont en train de disparaître?
J'ai été très marqué par une phrase du grand philosophe Todorov, qui disait, ici à Radio France, on avait un débat ensemble, il disait, vous savez, les nationalistes, le problème c'est qu'ils n'ont rien à vendre. Et je crois que cette phrase est très exacte, et je la reprends à mon compte, c'est-à-dire, il y a une fièvre nationaliste qui est due à un phénomène qui est mal étudié, qui est la grande peur du vieux monde. Le vieux monde a peur de la mondialisation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et ceci crée des crispations nationalistes que des entrepreneurs de peur savent vendre en échange de bulletins de vote à leur profit. Mais du point de vue de la gouvernance du monde, ce nationalisme est complètement décroché par rapport aux réalités mondiales, n'a rien à vendre, c'est-à-dire n'est pas capable de faire progresser la gouvernance mondiale. Donc je pense que ce nationalisme, c'est une étape courte. Et c'est une étape courte que j'appelle néo-nationalisme parce que le nationalisme renvoie à une conquête de nouveaux droits. C'est la grande épopée nationaliste du 19e siècle. Là, c'est un nationalisme d'enfermement, où on ferme les portes, les fenêtres, les volets, où on se verrouille à double tour, triple tour. C'est pas une solution d'avenir pour gérer, comme dirait quelqu'un, la maison qui brûle.
Merci beaucoup à vous, Bertrand Badi, d'avoir été avec nous. L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, votre nouvel essai géopolitique vient de paraître chez Odile Jacob. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Marianne Escovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Sophie Catherine Gallet, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Alex Dang. Demain, dans la Grande Table, la romancière Hélène Gaudy et l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. La première nous ramène sur les traces d'une expédition avortée au pôle Nord. Le second est parti à l'affût de la panthère des neiges au Tibet. Un roman et un récit pour un vendredi qui part à l'aventure. D'ici là, très bel après-midi à tous sur France Culture.